Je voulais préciser que ça n'était pas un sujet que j'avais choisi personnellement. Pour la bonne raison que le problème de la contraception est un problème qui a pris de l'acuité ces dernières années et qui, pour la majeure partie de ceux qui observent la Torah, est un problème d'abord personnel, de choix, mais surtout un problème d'essayer de savoir qu'est-ce qui peut être permis et qu'est-ce qui ne l'est absolument pas. Donc je ne pense pas que ce soit le but d'une conférence d'essayer de montrer la façon dont on peut se débarrasser de l'obligation d'avoir des enfants. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais essayer de traiter le sujet d'une autre manière. C'est pour ça que dans la formulation du titre, le couple et la contraception, il y a peut-être quelque chose à chercher. Vous savez que la Torah donne comme obligation à l'homme de se marier et d'avoir des enfants. On doit d'abord s'interroger pourquoi la première mitzvah de la Torah est justement celle d'avoir des enfants. Puisque après la création, tout de suite, on dit à Adam et Chava, à Adam et Ève, « Vatem peruvu, croissez et multipliez-vous. » En quoi cette obligation, cette mitzvah, a-t-elle une telle importance pour qu'elle soit la première de la Torah? C'est la première des 613 mitzvot. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une Gemara dans le traité de Shabbat qui définit les obligations de l'homme au-delà des obligations ponctuelles des 613 mitzvot par un verset de la Torah qui s'appelle Ve'alachta bidrachav, tu marcheras dans ses voies, c'est-à-dire les voies du Créateur. Et la Gemara nous dit, Ma'u rachum afata rachum, Ma'u chanun afata chanun, de même que lui est rachum, c'est-à-dire qu'il est miséricordieux, ainsi tu dois l'être, de même que lui a pitié, tu dois l'avoir pitié. Ve'alachta bidrachav, c'est donc une mitzvah englobant les autres mitzvot qui dit que l'homme doit marcher dans les chemins qui lui ont été tracés par Dieu. Lorsqu'un être a la conscience d'avoir été créé, il a immédiatement la conscience du Créateur. Ve'alachta bidrachav, il a aussi la conscience d'un but qui présiderait à celui de sa création. Il va donc chercher, dans tout ce qu'il peut percevoir de l'intention du Créateur, quel est le but de sa création. Les buts de sa création vont se confondre avec les moyens dont il dispose et dont il va s'apercevoir immédiatement. La première chose que l'être créé peut apercevoir, c'est que ce créateur a donc la possibilité de créer. Et il va essayer de savoir si lui-même a cette possibilité. On peut comprendre donc que la première mitzvah de la Torah soit « Ve'atem ruvu », c'est-à-dire vous êtes des êtres qui ont été créés et qui par là même ont la possibilité de créer. C'est comme ça qu'on peut comprendre que ce soit la première mitzvah de la Torah. La première chose que l'homme peut percevoir de Dieu, c'est une création. À partir du moment où il est l'émanation de cette création, il portera lui aussi ce pouvoir de créer qui deviendra du fait de la mitzvah une obligation. Ça, c'est la première chose la plus facile à comprendre. On dira donc qu'à partir du moment où l'homme a été mis sur terre dans un but qui peut lui être personnel, c'est ce qu'on appellera l'aventure individuelle de l'homme, il n'en restera qu'il a en lui cette émanation du Créateur qui fait que il a l'obligation lui-même d'être créateur. On ne pourra pas dire que c'est son but, puisque son but, c'est son aventure individuelle, mais ce sera un de ses moyens. Ça, c'est la première chose que celui qui réfléchit, à partir de la donnée première de la Torah, qui est Bereshit Bara Elohim, c'est-à-dire qu'il y a création, doit pouvoir s'apercevoir. Ça, c'est une première chose qu'il faut poser, qu'il faut savoir. Il y a encore une deuxième chose. La deuxième chose, c'est que, bien que l'homme ait été créé seul, et la Mishnah dans Sanhedrin dit « Le firar nivra adam yuchidi » l'homme n'a pas été créé comme les autres espèces, mâles et femelles, mais a été créé seul, unique. C'est pour bien faire comprendre à l'homme que l'aventure de l'espèce par rapport à l'aventure individuelle est secondaire. Donc l'homme a été créé seul. Mais ensuite, tout de suite, Akadosh Baruch Hu est venu et lui a dit « Lotov liota adam levado » il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est lo ezer kenegdo. C'est-à-dire, on va lui donner un alter ego, mais dans le langage de la Torah, ezer, c'est-à-dire une aide. On voit donc que l'autre, qui est en l'occurrence dans l'aventure de Adam et de Chava, qui est la femme par rapport à l'homme, est un ezer, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, c'est quelque chose qui aide. Et de là, le problème général qui est de savoir, est-ce que cette rencontre de deux aventures individuelles est faite pour une certaine aventure de l'espèce, ou au contraire, elle a un rapport avec l'individualité de l'homme. On dira donc, Ezer Kenegdo, c'est que l'autre est une occasion pour moi. Le fait que je sois confronté avec l'autre, cela me pose un problème. Et ce problème, justement, je le résoudrai en essayant de chercher comment le Créateur se conduit avec moi. Donc cette Gemara de Shabbat va à l'Arta Bidrachav. Tu iras dans ses voies à lui et tu te confronteras avec l'autre selon ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a montré de sa position vis-à-vis de toi-même. Ça, c'est la deuxième base qu'il faut avoir. On verra donc que la notion de couple, c'est le microcosme du Ben Adam la Chavero, c'est-à-dire des mitzvot qui existent entre l'homme et l'homme. La première confrontation, le premier ézer, c'est-à-dire la première aide apportée à l'homme, le premier développement possible, c'est par la présence de l'autre, par ce que lui amène l'autre. Et ainsi le contraire. Ça, ce sont les deux bases que nous voyons dans la création. C'est pour ça que l'on trouve toute une littérature qui explique que la seule façon pour un homme de se confronter jusqu'au bout au problème du Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire de son action vis-à-vis des autres hommes, c'est dans le couple. La façon dont un homme réagit dans le couple est exactement la façon dont il pourra déterminer son rapport vis-à-vis de la mitzvah générale de Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire de l'homme envers son prochain. On ira plus loin et on trouvera dans les Sfarim que de même qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme pour pouvoir être meitiv, c'est-à-dire pour pouvoir donner, pour pouvoir faire du bien, l'homme qui est posé à côté de l'autre, c'est une occasion pour le premier de pouvoir lui faire du bien, de pouvoir l'aider. Et par là même, être aidé, puisqu'il servira de révélateur à sa propre aventure individuelle. Il en est de même pour la mitzvah de Peru ou Revu. De même qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, c'est-à-dire qu'il a, ce qu'on appellerait un petit peu en termes de Kabbalah, qu'il a procédé au chesed, à la bonté, à la bienfaisance la plus absolue, c'est lorsque quelqu'un me tend la main et que je lui réponds, il y a une sollicitation extérieure qui m'oblige à une certaine attitude. Mais lorsque je crée moi-même cette sollicitation extérieure, il ne peut y avoir de chesed, de bienfaisance, de bonté, qui soit plus exacte, plus absolue. lorsque Dieu a créé l'homme, et lorsqu'un homme crée un autre homme, il crée la possibilité pour lui d'être meitiv, c'est-à-dire de pouvoir organiser, de pouvoir ajouter au destin de l'autre. On verra donc que ce Ezer Kenegdos, l'homme que l'on place à côté de l'autre homme, viendra en fin de compte pour aboutir à quelque chose d'autre, que l'on créera soi-même, on donnera soi-même à la possibilité qu'à l'homme de chesed, à la possibilité qu'à l'homme de bonté, au devoir qu'à l'homme de faire quelque chose, viendra s'extérioriser par la création d'un enfant auquel on pourra apporter tout ce que HaKadosh Baruch Hu apporte à l'homme. C'est à travers ces deux pôles-là que l'on peut comprendre cette mitzvah Va'atem Perurevu, qui nécessite la présence de l'autre et qui nécessite la création entière. Tout le monde connaît le Midrash dans l'Ech Lecha, où il est raconté qu'Abraham Avinu, un jour, un pauvre est venu chez lui, et Abraham Avinu lui a donné à boire, ça ne le satisfaisait pas. Il lui a donné à manger, ça ne le satisfaisait pas, il voulait toujours autre chose. Jusqu'au moment où Abraham Avinu lui a dit, si tu n'es pas content ici, tu peux partir. Et cet homme est parti dans le désert, il n'avait rien dans le ventre, et il a prié, il a pleuré. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu est apparu à Abraham et lui a demandé, pourquoi est-ce que tu as laissé cet homme partir sans le nourrir? Et Abraham Avinu lui a répondu que cet homme-là lui était insupportable. Et HaKadosh Baruch Hu lui dit, si moi je peux le supporter, toi aussi tu peux le supporter. On pourrait même peut-être faire intervenir une autre notion, qui est que si moi je te supporte, toi aussi tu peux le supporter. Dans la création de l'autre, dans la présence de l'autre, il existe donc ici une mesure que l'homme doit prendre vis-à-vis de lui-même et qui est un des buts de sa vie. Ça, c'est le premier volet de ce que nous devons savoir. Il y a un deuxième volet. Lorsqu'on essaie de savoir qu'est-ce que l'on appelle le bien et le mal, il y a une notion qui est commune et que l'on ne comprend pas toujours, c'est que le mal n'a pas été créé par Dieu, ne peut pas être créé par Dieu, mais est le fait de l'homme. Bien qu'il est marqué dans le verset « Yotzeror uvore chosher »« Ose shalom uvore tara » c'est-à-dire que ce serait Dieu qui borait, qui créerait le mal. Mais on voit tout de suite la différence entre le mot « yotzer » qui est une création et le mot « bria » qui en est une autre. Que lorsqu'il s'agit de l'homme, il est marqué Yotzer Or, c'est-à-dire, il est là une création définitive, un but qui est atteint. Alors que Bria, la création, c'est le naturel, c'est quelque chose qui peut être un écran à autre chose et qui n'est pas une création définitive. Donc on pose généralement que Dieu ne peut pas faire le mal. Mais le problème, c'est de savoir le fonder. Pourquoi nous nous posons, pourquoi nous nous sommes sûrs que le mal ne vient jamais de Dieu? Une des réponses est très simple. Il ne peut exister de mal qu'en tant que moyen pour un intérêt suprême. Je ne fais le mal à quelqu'un que si ce mal me rapporte du bien ou rapporte du bien autrement. Il n'est pas possible, il n'est pas concevable que quelqu'un fasse le mal pour le mal. Parce que ça ne peut jamais être un but, ça n'est qu'un moyen. Chez HaKadosh Baruch Hu, chez Dieu, il n'existe pas de moyen, il n'existe que des buts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt suprême. Il n'y a pas de besoin. Lorsqu'un homme fait le mal, lorsqu'un homme se conduit mal, c'est pour une raison qui pour lui est bonne. Elle est bonne pour son plaisir, elle est bonne pour son intérêt, mais elle est bonne. Donc finalement, ça n'est qu'un moyen. Dieu qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas de besoin, qui n'a pas de désir, ne peut exister chez lui le mal. On verra donc que le mal, c'est le contraire de ce qui est un but. On le voit dans la Torah. Puisque vous savez que le premier homme sur lequel il est marqué dans la Torah qu'il était mauvais, pas qu'il a fait le mal, mais qu'il était mauvais, c'est un homme qui s'appelait Er. Vayehi Er Ra Be'enei Hashem. Er, c'est celui qui n'a pas voulu avoir d'enfant, qui a fait la avera que nous appelons shirvat zera levatala, c'est-à-dire d'utiliser une semence qui est faite pour la création et de l'utiliser pour son propre plaisir. Il s'appelle Er, les mêmes lettres que Ra. Ce qui voudrait dire que le Ra, c'est quelque chose qui ne va pas à un but déterminé, mais qui n'est qu'un moyen d'une jouissance. Et c'est ainsi que nous comprenons que chez HaKadosh Baruch Hu, chez lui, n'existe pas de Ra. Ça ne veut rien dire. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de besoin. En vérité, ceci est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin, où la Gemara nous raconte que Antonin a demandé à Rabbi, à partir de quand vient chez l'homme le Yetzer Hara, le mauvais penchant? Mishat Yetzia ou Mishat Yetzira? Est-ce que c'est à partir du moment de la naissance ou à partir du moment de la conception? Rabbi lui a d'abord répondu, c'est à partir du moment de la conception. Et alors Antonin lui a demandé, si c'est ainsi, Imken Boet Beme Imo Veyotze, si le Yetzer Hara existe chez l'homme à partir du moment de la conception, il ne devrait pas y avoir de naissance, parce que, en vérité, cet enfant qui est dans le ventre de sa mère, s'il existait chez lui un Yetzer Hara, il devrait sortir avant la naissance. Et là, Rabbi lui a dit, d'accord. On est donc obligé de conclure que c'est à partir de Shat Yetzia, au moment de la naissance. De là, nous voyons la définition du mal. La définition du mal, c'est ce qui est contraire au tachlit, ce qui est contraire au but. Ce besoin qu'a l'homme d'aller à l'encontre du but pour lequel il a été créé. À partir du moment où il y aura une fonction qui exprimera le plus le but de la création de l'homme, elle sera donc en but au maximum de ce qu'on appellera le rat. C'est pour ça qu'on comprendra que les interdictions de la Torah qui ont un rapport avec les interdits sexuels seront toujours ou passibles de la peine de mort ou passibles de la peine de karet. La plupart des karet, nous dit la Gemara, existent dans les harayot, dans ces interdits-là. Le rat se niche plus dans ce genre de choses puisqu'elle touche à la finalité même de l'homme. Donc le rat, nous dirons, c'est la négation du tachlit, c'est la négation du but de la création. C'est l'utilisation d'un moyen qui est à mettre au service du but de la création pour sa propre jouissance, pour son propre intérêt, à la merci de son propre désir. C'est donc le contraire d'une création, c'est une anticréation. C'est pour ça que ce monsieur qui s'appelait R, en vérité, il s'appelait Ra. Parce que ce qui a été donné à sa disposition pour créer, il y a mis une négation. C'est ce qu'on appelle le Ra. À partir de ce moment-là et à partir de ces deux pôles-là, il est à s'interroger pourquoi. Et cela fait déjà quelques dizaines d'années. Un des problèmes les plus cruciaux à l'intérieur du couple juif est justement le problème de la contraception. Vous savez que la société moderne est en opposition absolue avec la société telle qu'elle est demandée d'après la Torah. La société telle qu'elle est demandée dans la Torah est une société qui doit développer l'individu. Développer l'individu, c'est-à-dire de lui donner un but. Le but serait ve'alarta bidrachav, c'est-à-dire de pouvoir dépasser cette condition que nous appelons souvent yetzer hara, c'est-à-dire le désir de s'autosatisfaire, le désir de ne pas créer, le désir de ne pas avancer, de ne pas se mettre au-dessus du teva, au-dessus de la nature, bien que ce soit le but de la création. Puisque le texte nous dit que Doshim Tiou, soyez saints, soyez réservés, ki kadosh ani Hashem. C'est-à-dire votre but, c'est d'être au-dessus de la condition dans laquelle vous avez été mis. On explique ça très facilement. Lorsque HaKadosh Baruch Hu a créé l'homme, il aurait pu le créer dans l'Olam Abba, dans le monde futur, en tant que Neshama, en tant qu'âme. En tant que personne, il n'avait pas besoin de le créer avec le gouf, avec le corps, avec les problèmes que cause le Olam Hazé, ce monde-ci. La seule raison pour laquelle l'homme a été placé d'abord dans ce monde-ci, avant de pouvoir accéder au monde futur, c'est pour ne pas, nous disent les Chachamim, manger Naama de Kisufa, c'est-à-dire le pain de la honte, une chose gratuite. L'homme doit pouvoir s'élever de lui-même à la condition d'homme, et que ça ne soit pas simplement le don d'Akadosh Baruch Hu. Le don d'Akadosh Baruch Hu étant seulement le point de départ à la création. Lorsqu'un homme s'élève au-dessus de ce que nous appelons la nature, au-dessus de ce que nous appelons ses envies, au-dessus de ce que nous appelons la négation de sa création, à partir de ce moment, il a justifié lui-même sa création. Ça, c'est le but de la société. On a dit que c'est le but du ézer kenegdo, de l'aide que peut apporter l'autre. La société dans le monde moderne dans lequel nous vivons, elle n'a de but et elle n'est là que pour apporter ce que l'on appelle entre parenthèses le bonheur, c'est-à-dire la jouissance de sa propre existence. Il n'existe aucun but qui serait celui de s'élever au-dessus de cette condition justement pour la justifier, pour que l'homme puisse presque dire que même s'il n'avait pas été créé, il s'est créé de lui-même. C'est le but du mot Vayitzer. Lorsque Dieu a créé le monde, il est marqué Vayitzer avec deux Yud. Et les Chachamim disent le Olam Hazé, le Olam Haba. Dieu a créé l'homme, le Olam Hazé. Mais il y existe une possibilité d'une nouvelle création qui est le Olam Haba et qui est justement celle de l'homme. Vayitzer, nous disent les Chachamim, Beshne Yudim. Deux Yud, Yatsar, Beshne Yudim, on a créé l'homme avec une double détente. La première, la création de l'Olam Hazé qui est celle de Dieu. Et la deuxième, la possibilité pour l'homme d'une nouvelle création ou d'une nouvelle existence qui est celle du Olam Haba. À partir du moment où un homme peut y accéder, il a une justification personnelle à la propre création dont il a été, on pourrait dire entre parenthèses, victime. Et c'est la raison pour laquelle le but de la société dans la Torah, c'est justement de développer l'individu. Et non pas de lui amener les satisfactions auxquelles il aurait droit. On va expliquer ça d'une façon très simple. Il y a une question qui est connue pour celle être, c'est la question de Rabbi Yitzhak Blazer, le Corvée Or. Et il demande d'une façon très simple. Dans tous les systèmes de loi qui régissent une société, à part celui de la Torah, nous trouvons qu'il n'existe de récompense que dans des faits qui se situent au-dessus de la normalité. Lorsque quelqu'un commet un acte de bravoure, il est récompensé. Il n'existe de sanction que lorsque l'homme commet un acte qui est en dessous de la limite acceptable. Mais l'homme qui se conduit normalement, selon ce que la société lui demande, il n'a droit ni à une récompense ni à une sanction. Alors que dans la Torah, nous voyons que chaque mitzvah donne lieu à une récompense, et à l'inverse, le fait de ne pas faire la mitzvah donne lieu à une sanction. Pourquoi existe-t-il cette différence? Il répond d'une façon très simple. Lorsque la société est faite pour réagir les rapports entre les hommes, il doit exister une normalité. Un rapport qui ne soit ni positif ni négatif. C'est une exigence de la société. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne commet pas ni vol, ni meurtre, c'est quelqu'un qui est dans une place de normalité dans la société. Il n'a pas besoin non plus d'avoir réalisé des actes de bravoure. Il reste dans la normalité de la société. Il y a donc une exigence de l'autre. Mais la Torah, qui est faite pour développer l'homme, pour lui-même, il n'existe pas de normalité. Pour lui-même, il n'existe que l'effort, qui même qui pourrait être exigé par l'autre en tant que normal, est quand même un effort. qui méritera récompense. Le seul barème étant donc l'homme lui-même. Alors que lorsque il y a une relation entre un homme et un autre homme qui est le barème, à ce moment-là, il doit exister une notion de normalité. Cette différence qui existe entre la société telle qu'elle doit être vécue selon la Torah et la société telle qu'elle est vécue dans le monde moderne fait que le juif est confronté à ce que nous appellerons le rat. Nous avons dit tout à l'heure que R, cet homme-là, qui est défini comme rat dans la Torah, c'est celui qui confond le but et le moyen et qui utilise le moyen pour un but autre que celui qui a été donné. La société moderne, c'est justement une société de R. C'est-à-dire qu'elle a pour but non pas de développer l'homme, mais de lui assurer un certain bonheur. Alors que cette notion de bonheur dans le judaïsme, elle n'existe pas. Elle peut être acquise à partir d'une élévation personnelle. Mais elle n'est pas un droit de l'homme, et elle n'est pas le but de l'homme. Cette notion de bonheur, c'est un moyen, justement. C'est un moyen pour que l'homme ait envie d'assumer son but, pour que l'homme ait envie d'assumer sa vie. Tout le bonheur qu'il pourra y trouver, c'est ce que nous appelons la bracha. La bracha, vous savez que dans la Torah, la bracha, ce ne sont que des moyens. Ça n'est jamais un but. Si vous regardez dans la paracha qui traite de la bracha qui sera donnée au Bnei Israël, dans la paracha de Ekev, dans Devarim, il y a marqué Vei sir Hashem imcha kol choli. On enlèvera toutes tes maladies. Lo yebcha akar va akara ubibemtecha. C'est-à-dire, il n'y aura pas de stérilité. Les choses iront normalement. Vechol madve mitzraim araim asher yadata. Tout ce que tu as vu en Mitzraim, tout ce que tu as vu, les plaies d'Égypte, on ne te les donnera pas. La bracha pour nous, ce que les autres appellent le bonheur, c'est un moyen de vivre. C'est un moyen d'avoir une certaine sérénité pour s'occuper d'autre chose que de sa propre existence, de sa propre survie. Donc ce qui est pour nous un but, dans la société moderne, c'est un moyen, qui est pour nous un moyen, dans la société moderne, c'est un but. C'est la différence entre ce R sera et le Tov qui est décrit dans la Torah. Le problème de la difficulté du couple et le problème de la contraception sont nés dans le peuple juif à partir de cette confrontation. Il est difficile de côtoyer, de vivre dans une société dont nous avons décrit que les moyens et les buts sont exactement le contraire des nôtres. Ce qui est pour nous un moyen, le bonheur, pour eux c'est un but. Et à partir de ce moment-là, viendra ce conflit chez l'homme, qui sera comment vivre d'un côté d'une façon qui lui semble être la bonne et la réelle dans le monde moderne, et d'un autre côté, celle qui est décrite par la Torah. Nous avons dit au commencement que lorsque l'homme était seul, Akadosh Baruch Hu a dit Lotov liot Adam levado. Et c'est lo ezer kenegdo. C'est-à-dire que l'autre doit être une occasion pour moi d'être oler bidrachav, c'est-à-dire de pouvoir copier le Créateur, de pouvoir être au-dessus de la condition dans laquelle il nous a placés. Nous sommes confrontés à l'attitude du monde moderne, de la société moderne qui est le contraire. C'est que l'autre a été placé, ezer kenegdo, c'est aussi un ezer, c'est aussi une aide, mais une aide dans le sens de la jouissance et du bonheur. Ça n'est pas pour révéler une qualité chez l'homme, c'est pour pouvoir jouir d'un certain bonheur. L'autre, qui est donc qualifié comme la Torah le dit, comme un objet, mais qui n'est pas un objet pour en tirer une jouissance, mais au contraire, pour pouvoir lui apporter quelque chose, pour pouvoir être ve'alachta bidrachav, c'est-à-dire faire aussi œuvre de création, de se mesurer à l'autre, on l'a transformé comme un instrument. De là viennent les difficultés qui existent dans les couples juifs. Lorsque quelqu'un se marie d'après la Torah, il a eu droit à ce que la Torah dit « Ezer Kenegdo », c'est-à-dire une aide, mais Kenegdo, selon sa conduite à lui. Et les Sfarim nous disent que la meilleure des possibilités de vivre Ben Adam Lachavero, de pouvoir avoir cette attitude que HaKadosh Baruch Hu a envers nous, « Ma'u Rachou, Ma'fata Rachou, Ma'u Chanoun, Ma'fata Chanoun », c'est de l'avoir envers son conjoint. Et d'un autre côté, nous voyons ce que la société moderne nous propose, c'est-à-dire quel est le bonheur que tu pourras retirer, ce ézer, qui est un ézer dirigé dans l'autre sens. Il en est de même pour les enfants. Nous, nous avons dit que la première mitzvah de la Torah, qui est la mitzvah de Pérou Revou, c'est-à-dire de faire acte de création, de même qu'Akadosh Baruch Hu a fait acte de création vis-à-vis de l'homme, cette première mitzvah de la Torah va être comprise dans la société qui nous entoure ou comme un investissement ou comme un confort ou comme un agrément. Et c'est la raison pour laquelle les couples juifs ont justement le même genre de problème que les autres. Il est rare qu'on vienne chez un rabbin pour lui demander une contraception pour le premier ou même le deuxième enfant. C'est toujours pour le troisième enfant. Exactement le même problème auquel est confronté le ministre des Affaires sociales lorsqu'il vient et il donne une allocation pour le troisième enfant. Alors que nous, nous avons vu que la société juive était une société où il n'existait pas de limitation de naissance. Elle s'est tout doucement transformée en une société où justement le troisième enfant porte en lui les mêmes problèmes qu'il porte dans le couple non-juif. Et le problème vient du fait que cette confrontation entre la société juive et la société qui nous entoure a été vécue et a été résolue au bénéfice de la société qui nous entoure et non pas de ce que la Torah a demandé. À partir du moment où nous nous considérons, et ça a toujours été la considération de la Torah, que l'autre est un ézer kenegdo, et qu'il donne la faculté et la possibilité de construire d'autres neshamot, d'autres personnes, qui, c'est vrai, elles peuvent être aussi des ézer, mais ézer qui voudra dire une occasion de se révéler par rapport à eux. Une occasion, le heitiv, c'est-à-dire de pouvoir produire quelque chose de neuf. On va le comprendre dans l'autre sens, c'est-à-dire que peut-être le troisième enfant et plus, c'est bien pour la retraite, c'est bien comme investissement, c'est bien pour ne pas être seul, et les problèmes vont être vécus exactement de l'autre côté. Maintenant, on me dira, lorsque les gens parlent de contraception, ils parlent de problèmes réels. C'est-à-dire que la société moderne nous a obligés à une façon de vivre qui entraîne la fatigue, qui entraîne la dépression. Et lorsque quelqu'un vient nous voir et nous dit « Voilà, j'aimerais bien avoir beaucoup d'enfants, je comprends qu'il est marqué dans la Torah « Va'atem peru revu ». Seulement c'est difficile, c'est vrai que ce problème-là existe. Seulement s'il était confronté à la difficulté que l'on trouve normale de la mitzvah, il n'aurait pas du tout la même résonance. Tout le monde sait que la mitzvah, elle a une façon non seulement de s'exprimer, mais d'être vécue. Les Chachamim nous disent le fum tzara agra, c'est-à-dire selon le tzar, selon la difficulté, la mitzvah n'en est que plus belle. Une mitzvah qui est facile n'a pas de valeur. Une mitzvah qui est difficile, le fum tzara, selon ce qu'on investit dedans, elle commence à prendre de la valeur. Et alors à ce moment-là, on est obligé de concevoir que le plan de société qui nous est imposé par notre environnement n'est peut-être pas le même que le nôtre. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. La première fois qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à un homme qu'il avait découvert, qui avait découvert l'idée de Dieu, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Abraham et qu'il lui a dit « Lech lecha me'artzecha u'mimoladtecha el ha'aretz asher areka. Va-t'en, quitte ta famille, quitte ta patrie, el ha'aretz vers la terre que je t'indiquerai. » Et les commentateurs demandent comment la première fois qu'Akadosh Baruch Hu exige quelque chose de l'homme, il ne lui indique pas le but fixé. El ha'aretz asher areka, tu iras là où je te dirai. Pourquoi ne lui a-t-il pas dit le nom de cette terre, où elle se trouvait, comment devait-il y aller? Ça, il le verra en chemin. Mais la première chose, va-t'en. Où? Elle arrête sa chère Areka, je te le dirai déjà. Il y a un commentateur qui s'appelle Or Rachaz, qui explique et qui dit ceci. La mitzvah, à part le but qui est compréhensible, et qui est indiqué dans la Torah. Dans chaque mitzvah, nous pouvons trouver un tas, nous pouvons trouver une raison, nous pouvons trouver ce qu'elle a dans la création comme but. Il y a la confrontation de l'homme lui-même avec la mitzvah, avec la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Cette mitzvah qui a été donnée à Avraham Avinu, la première mitzvah de la Torah, qui a été donnée à un homme ponctuellement, il faut comprendre que son sens est fait la volonté d'Akadosh. Que va-t-il arriver? Pourquoi le faire? Où le faire? Comment le faire? Ça, ce sont les circonstances de la mitzvah. C'est ce qu'on appellera tafel, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne fait pas, qui n'a pas d'importance par rapport à la mitzvah elle-même. Lorsque quelqu'un doit fonder une famille, il oublie souvent que le but n'est pas la famille qu'il a vue, qu'il a rêvé, qu'il a vue dans les magazines, dont lui-même a l'idée, mais le but est la mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah, ça n'est pas seulement réaliser quelque chose, c'est se mesurer à quelque chose. Et lorsque l'on parle de planning, lorsque l'on parle de but de la mitzvah, de but de chaque chose que l'on fait, selon la Torah, on est obligé de se mesurer à la mitzvah brute. Et la mitzvah brute, elle reste vers Tempero. Et là, on viendra avec d'autres ta'anot encore. On viendra et on dira, mais ces enfants-là, qui dit qu'on pourra les éduquer comme il faut? Qui dit qu'ils suivront le but que nous avons pour eux? Cette question, c'est une vieille question qu'avait déjà le roi Chizkia. Et lorsque le prophète Yeshayahu est venu chez lui et lui a dit, tu vas mourir parce que tu as transgressé la Torah, parce que tu n'as pas eu d'enfant, et lui a répondu, mais j'ai vu. Il avait des façons mystérieuses de voir que mes enfants n'observeraient pas les chemins de la Torah. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu en avoir. Et le prophète lui a répondu, Maïd Mifkadat, ce que l'on t'a ordonné, Baït le Mevad, il fallait le faire. Et dans les secrets de Dieu, tu n'as pas ta part. C'est-à-dire que le but est incompréhensible. Pourquoi avoir d'enfants lorsque je sais qu'ils seront des rechaïm? Quand même la Torah nous dit, c'est ce que nous appelons lo alecha amelach aligmor, c'est-à-dire, ça n'est pas à toi de tout planifier. La mitzvah a un autre but encore, c'est celui de se mesurer avec la parole d'Akadosh Baruch. Il est vrai que cette ta'ana, cet argument existe, puisqu'il y a un possèk qui s'appelle le Maharshal, Rabbi Shlomo Luria, qui est possèk l'alakha, qui décide que quelqu'un qui serait sûr de ne pas pouvoir éduquer ses enfants dans le judaïsme, s'applique ce qu'il y a marqué dans la Gemara d'Anida, que Beshnat Batsoret, au moment où il y a la famine, on ne doit pas avoir d'enfants, et que là aussi, s'il ne peut pas éduquer les enfants comme il doit le faire, il vaut mieux qu'il n'en ait pas. Comment concilier les deux attitudes? Les Mefarshim m'expliquent de la façon très simple. Chizkia, lorsqu'il a vu, lui, par des moyens qui lui étaient propres, que dans telle et telle génération, il aurait des enfants qui étaient des Rechaïm, c'est ce qu'on appelle Kavshad Rahmana, c'est-à-dire le plan du monde. Le planning tel qu'il a été établi par Akadosh Baruch Hu et qui ne regarde pas l'homme. Mais lorsque l'on s'adresse à l'homme personnellement, lorsque lui-même n'est pas capable de les éduquer, lorsque lui-même a des problèmes, là il ne s'agit pas d'essayer de voir le planning, il s'agit simplement d'essayer de voir ce que l'on peut. Et à ce moment-là, dit le Maharshal, il vaut mieux ne pas avoir des enfants. Ici on voit bien la notion de mitzvah. Lorsque je n'ai pas la possibilité d'accomplir la mitzvah, à ce moment-là je ne dois pas la faire. Mais lorsque j'ai la possibilité d'accomplir la mitzvah, mais je pense que cette mitzvah va donner des résultats qui ne sont pas ceux que j'attends, ça c'est Kavshel Rahmana, c'est-à-dire c'est le plan établi par Dieu au moment de la création et qui ne regarde personne. En disant que je n'avais pas choisi le sujet, je veux dire que mon propos ne serait pas d'essayer de détailler, s'il y a des questions on y répondra, de savoir quand est-ce qu'il est permis d'utiliser la contraception, quand est-ce qu'il est interdit d'utiliser la contraception. Quels sont les moyens, les meilleurs, les plus forts, les moins forts, les moins bons, ce permis d'après l'Halakha, ce plus interdit d'après l'Halakha. Ce qu'il faudrait cerner, c'est le problème général. Comment se fait-il que nous avons ce problème? Comment se fait-il que les Juifs aujourd'hui, chacun soit conforté à ce problème-là? D'après ce que nous avons essayé de dire, c'est que justement, la façon juive de vivre, ou est mal vécue, ou est mal comprise, et n'arrive pas à se confronter à la façon de vivre qu'à la société à l'extérieur. Il en est de même dans les problèmes du couple. Aujourd'hui, les rabbins sont assaillis par les problèmes de mésentente et de divorce. Tous les problèmes, à part quelques exceptions, traitent toujours de la même façon l'insatisfaction mutuelle. Et la Torah pourtant dit le contraire. On a pris quelqu'un pour pouvoir être révélé. L'autre, c'est une façon de pouvoir aider. C'est une façon de pouvoir produire. Ça n'est pas une façon de pouvoir être satisfait. À partir du moment où, de nouveau, les problèmes sont vécus de l'autre côté, ils sont insolubles d'après la Halakha. D'abord, il faut remettre la façon juive de vivre dans son contexte. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on pourra essayer de comprendre quelle est la politique de la Torah, et en ce qui concerne la famille, et en ce qui concerne le couple. Les Sfarim nous disent que la façon la plus révélatrice de savoir comment un homme voit la vie, voit le Ben Adam Lachavero, voit les relations qui existent entre lui et les autres, c'est la façon dont il choisit et dont il se comporte avec son conjoint. S'il le choisit pour son bonheur, pour sa jouissance, pour régler ses problèmes, que l'on nommerait entre parenthèses de Yetzer Hara, à partir de ce moment-là, le couple est mal compris. Mais à partir du moment où c'est choisi pour pouvoir avoir une occasion d'être roller bidrachav, c'est-à-dire d'essayer de créer quelque chose, alors on ne pense plus, on n'essaye plus de regarder si sa propre satisfaction est obtenue, mais si la satisfaction de l'autre est obtenue. Et pour terminer, je voudrais juste citer une anecdote qui est arrivé à celui qu'on appelait le Saba Milovardok, Rav Yosef Horovitz. qui était un homme qui vivait isolé. Pendant 7 ans, il n'est pas sorti de sa demeure et qui a accompli un travail sur lui-même. Et ce qui l'a fait sortir, c'est qu'un jour, il a entendu des pleurs à côté de chez lui. Il est rentré dans la maison d'à côté, il a vu qu'il y avait des parents et une jeune fille en pleurs, il a demandé la cause. Et on lui a dit que cette jeune fille avait été fiancée, mais que les parents n'ayant pas pu réunir la dot, les fiançailles avaient été annulées. Et alors, le Saba Minovardok, qui était lui-même veuf depuis 7 ans, a dit qu'il avait trouvé un chidour, il avait trouvé quelqu'un. Et lorsqu'on lui a demandé qui c'était, il a répondu que c'était lui-même. Et qu'il était prêt, lui, à se marier avec cette jeune fille. Lorsque toute la ville était en émoi, et qu'on a essayé de lui montrer que cette famille-là était une famille qui ne répondait pas à sa condition, lui qui était un des plus grands talmidei chachamim de la génération, comment pouvait-il épouser une jeune fille pauvre et sans instruction? Il a répondu que, étant veuf lui-même, il attendait quelqu'un à qui il pouvait faire du bien et qu'il n'avait pas trouvé une meilleure occasion que ce mariage-là. Il est évident qu'on ne peut pas nous demander à nous de vivre de cette façon-là. D'être un tzaddik, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde et qui peut prendre toute une vie. Mais d'essayer de trouver le concept, d'essayer au moins de savoir la façon dont on doit vivre, d'essayer au moins de savoir qu'est-ce que la Torah demande, là-dessus, il est de l'obligation de chacun d'être clair. Et c'est la raison pour laquelle, justement dans ces problèmes-là de la famille et de la contraception, on est obligé de savoir à chaque fois où on se demande ces problèmes-là, jusqu'à quand est-on obligé, quand est-ce que ça peut être moutard, quand est-ce que c'est assourd, de se rendre compte de quelle est la vie que la Torah nous demande, quelle est celle que l'on mène, et d'essayer de savoir combien on peut faire tendre l'une vers l'autre. Et c'est de cette façon que lorsque l'on regarde les problèmes qui sont ceux de la famille, on peut essayer de les résoudre d'une façon qui n'est peut-être pas satisfaisante pour le moment, parce qu'on est obligé de prendre sur soi, mais au moins qu'on soit capable de savoir quelle est la vie qui est tracée pour nous, et quelle est la différence avec celle que nous nous menons. Je propose de passer aux questions. Alors on va essayer d'y répondre. La première question a été formulée, d'après ce que j'ai compris, c'était ceci. Bon, on se marie, on a 10 enfants. Quand et comment fait-on pour s'arrêter? La deuxième question étant la même, c'est-à-dire que dans quel cas peut-on constater l'impossibilité d'avoir des enfants? La troisième question étant, qui est-ce qui doit constater l'impossibilité? Est-ce que c'est la femme ou le mari? J'ai traité la différence entre la non-possibilité et l'impossibilité. Il est sûr que lorsque se posent des problèmes de santé ou des problèmes qui peuvent occasionner l'impossibilité de l'éducation des enfants, il est permis dans certains cas de pratiquer la contraception. Ici, je ne voudrais pas essayer d'imaginer tous les cas possibles. D'abord parce que la réalité dépasse la fiction. Ce dont il faut bien être conscient, c'est que la limite n'est pas ce qu'on a essayé de déterminer avant par le bonheur qui est mis en cause, la facilité de la vie qui est mise en cause, mais l'impossibilité étant dans la mitzvah elle-même. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes la veille de Soukhot. Et il y a 2 personnes qui n'ont pas encore acheté le etrog.
Il y en a une parce qu'elle habite dans une ville où on ne peut pas trouver des drogues. Elle est allée la chercher. Et elle n'en a pas trouvé. Il y en a une deuxième qui ne veut pas mettre trop d'argent pour les drogues, qui attend la fermeture des magasins parce qu'à ce moment-là, on brade. Ou alors qui s'est dit que cette année-là, elle pouvait prendre les drogues de l'autre. Il y a un cas que nous appellerons honnête, c'est-à-dire le cas de force majeure qui fait que intrinsèquement la mitzvah n'est pas possible. Si quelqu'un a peur de ne pas pouvoir éduquer ses enfants dans la voie de la Torah, si quelqu'un a peur de ne pas pouvoir donner à manger à ses enfants, ce que nous avons cité de la Gemara Nida, Shnat Batsoret, c'est-à-dire lorsque la famine règne. Si la famine règne, ça n'est pas exactement le même cas que lorsque l'on doit choisir entre un troisième enfant et la résidence secondaire. L'impossibilité doit être traitée dans les problèmes que cause la mitzvah elle-même. Pas dans les problèmes que cause la mitzvah par rapport au couple. La non-possibilité, je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement la différence avec l'impossibilité, mais il peut exister des cas de troubles physiques ou de troubles mentaux qui font que pendant une certaine période, il soit conseillé à certaines personnes de ne pas avoir d'enfants. Mais de nouveau, c'est à traiter par rapport à la mitzvah elle-même, pas par rapport au contexte de la mitzvah. Si moi je ne vais pas acheter un étrog parce que je n'ai pas le temps, parce que je n'ai pas envie ou parce que je n'ai pas d'argent, ça n'est pas la même chose que celui qui ne trouve pas d'étrog parce que cette année-là il n'y en avait pas ou parce qu'il n'avait pas la possibilité d'en acheter. Chaque mitzvah, on pourra toujours trouver qu'elle est difficile à accomplir et qu'il y a plus de difficultés pour elle que pour une autre. La raison pour laquelle les couples juifs, même religieux, même shomrei mitzvot entièrement, ont des difficultés pour l'accomplissement de la mitzvah de Pourvu vient du fait qu'on ne la regarde pas en tant que mitzvah elle-même à laquelle on doit se mesurer, mais on la regarde en tant que planning de la famille. Chaque fois que dans l'accomplissement de la mitzvah elle-même, il y aura des problèmes, à ce moment-là, on pourra parler de contraception. Maintenant, à qui est-ce de décider? Alors là, il faut savoir si l'on parle de droit. Parce que dans le droit, il y a toujours la possibilité, mais il y a aussi ce qui vient en contrepartie. Une femme a le droit de décider de ne pas vouloir d'enfant. Et son mari a le droit de décider de vouloir divorcer pour cette raison. Donc il est difficile de parler de droit. Évidemment, c'est un droit de la femme de refuser d'avoir des enfants. Mais c'est aussi le droit de son mari de refuser de garder cette femme. Donc je ne pense pas qu'il soit judicieux de parler en termes de droit. Maintenant, de savoir que dans l'impossibilité ou dans la possibilité de faire cette mitzvah-là, qui est-ce qui est le plus concerné? Il est évident que c'est la femme plus que le mari. C'est-à-dire que rares sont les cas où l'on prescrit une contraception parce que le mari n'a pas le temps de s'occuper des enfants. Donc, c'est plutôt celle sur laquelle la charge pèse qui pourra fixer la possibilité ou l'impossibilité. Mais si l'on parle en termes de droit, alors à ce moment-là, la femme, n'étant pas metsuva, c'est-à-dire n'ayant pas la mitzvah de Pourvu, cette mitzvah incombe à l'homme. Une femme peut refuser et de se marier, elle ne fera pas d'avéra, et elle peut refuser d'avoir des enfants. Maintenant, est-ce qu'une femme peut prendre une contraception sans le dire à son mari? Ça, on rentre dans des problèmes halakhiques assez complexes. D'après la plupart des poskim, d'après la plupart des décisionnaires, elle n'aurait pas le droit de la prendre sans l'accord de son mari. Maintenant, je répète, la possibilité et l'impossibilité sont à regarder au regard des possibilités de la femme, parce que c'est elle qui s'occupera des enfants et c'est elle qui subira. Il est cité des cas dans les poskim où une femme ne veut pas, non pas éduquer des enfants, elle est prête à en adopter, mais la peur d'accoucher, la peur de la grossesse, cela lui occasionne des douleurs qui pour elle sont insupportables. On peut aussi imaginer les cas où une femme se retrouve seule devant l'éducation des enfants. À partir de ce moment-là, il est évident que la décision doit être prise, non pas seulement en regard de ce que le mari veut, mais en regard de ce que la femme veut. On peut imaginer divers procédés.
Oui, qu'elle fasse d'après la halakha.
D'abord, il vaudrait mieux qu'elle prenne conseil d'un rabbin pour savoir si elle est dans un cas qui est le cas limite ou non. Mais à mon avis, avant d'aller demander conseil au rabbin, il faudrait savoir si le mari et la femme s'entendent sur le problème. Le conseil n'est jamais obligatoire. On ne peut pas. Il n'existe aucune obligation de prendre conseil. Mais il existe une obligation de savoir l'halakha. Si quelqu'un peut se débrouiller pour savoir l'halakha lui-même, il n'a pas besoin de rabbin, il n'a besoin de personne. Donc on ne peut jamais obliger quelqu'un à aller prendre des conseils. Maintenant, le procédé, je n'en vois pas exactement d'une façon légale. Le procédé est que, à partir du moment où une femme décide de ne pas vouloir d'enfant, si son mari est d'accord, personne n'a besoin d'intervenir. À partir du moment où, d'après l'halakha, les deux sont sûrs de leur bonne raison, à partir du moment où il y a conflit, normalement, il est conseillé de prendre conseil auprès d'une personne extérieure, d'un rabbin, qui pourra fixer exactement qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui est dans son tort. Et ça, cela peut entraîner des procédures qui deviennent du domaine du légal, c'est-à-dire de savoir est-ce que le mari est obligé d'accepter les décisions de sa femme ou non. Mais le procédé normalement est simple, c'est d'abord d'obtenir l'accord du mari et d'essayer de se renseigner auprès d'un rav pour savoir quelle est la halakha là-dedans. Attention, ici on parle dans un cas où la femme estime que c'est impossible pour elle. Et la femme estime que c'est impossible pour elle, alors si le mari aussi estime que ça l'est impossible, il ne pourra pas exiger ni le divorce, ni des enfants, ni rien. Tout qui est d'accord, l'impossibilité est de ce qu'on appelle honnête, c'est-à-dire le cas de force majeure. Il peut y avoir un cas de force majeure du point de vue physique, la santé physique. Il peut y avoir du point de vue moral, du point de vue mental, la santé mentale d'un ou des deux parents. Et il peut y avoir des difficultés financières qui font que l'on ne pourra pas nourrir ses enfants. Là aussi, on est obligé de se confronter à ce que la halakha pense être des difficultés financières. C'est pour ça qu'il est souvent très difficile de décider soi-même, parce qu'on se trouve toujours d'assez bonnes références et d'assez bonnes preuves pour dire que l'on ne pourra même pas ni nourrir, ni ceci. Je vous donne un exemple. Celui qui travaille le Shabbat et qui a un magasin dont le rendement est le meilleur le Shabbat, il n'arrivera pas à comprendre comment on peut avoir une parnassa sans travailler le Shabbat. Peut-être qu'en changeant de parnassa ou en fermant son magasin le Shabbat, il arrivera à découvrir comment est-ce qu'on peut vivre en étant chômeur le Shabbat. À mon avis, les exemples sont rares de ceux qui sont morts de faim parce qu'ils avaient respecté le Shabbat. Il en est de même pour la mitzvah de Prouvez-vous. Il est rare de trouver des familles qui se trouvent au bord de la famine ou au bord de l'impossibilité matérielle de nourrir leurs enfants du fait qu'elles ont des enfants. Mais théoriquement, on est obligé d'envisager ce cas-là. Et la raison pour laquelle on l'envisage le plus souvent, c'est justement parce que impossibilité matérielle n'est pas jugée comme impossibilité par rapport à la mitzvah elle-même, par rapport aux enfants, est-ce qu'on pourra les nourrir ou non, mais par rapport justement à la famille. Et par rapport à la famille, il n'est pas évident que les parents ont une obligation de donner une aisance matérielle au reste des enfants, c'est-à-dire de dire que lorsqu'il y en a déjà 4 ou 5, s'il y en a 4 ou 5 en plus, on partagera le magot en 10. Il n'est pas évident qu'il y ait une obligation, d'après la Torah, de laisser un magot à ses enfants. C'est-à-dire que il suffit de pouvoir les éduquer, de pouvoir non pas leur donner le fruit de la pêche, mais de leur apprendre à pêcher, pour qu'ils puissent eux-mêmes se débrouiller dans la vie. Et je ne pense pas que quelqu'un qui, normalement, doit mener ses enfants tous vers l'école polytechnique, à partir du moment où il est obligé de leur donner un métier manuel parce qu'on ne peut pas donner la même éducation à 10, je ne crois pas que cela s'appellerait un ptour, cela donnerait une impossibilité vis-à-vis de la halakha et une autorisation de la contraception. Donc chaque cas est à peser exactement, en toute conscience, pour savoir si quelqu'un est vraiment dans l'impossibilité. Et c'est à juger comme le etrog ou la souka. Est-ce que quelqu'un vraiment ne peut pas avoir d'etrog, ne peut pas manger sous la souka, ne peut pas être shomer Shabbat? Et exactement de la même façon, il est à juger pour la contraception. Donc les mêmes impossibilités d'un côté seront les possibilités et les impossibilités de l'autre côté. Là, c'est un problème assez grave. C'est-à-dire qu'il est difficile de répondre. Du point de vue de la femme, il semble que ce serait autorisé. C'est-à-dire qu'une femme qui a déjà eu des enfants, dont le mari a déjà pu accomplir la mitzvah de pourvu, aurait le droit vis-à-vis de l'halakha de refuser d'avoir des enfants au-delà d'un certain âge. À ce moment-là, il y a un problème qui est tout à fait autre. Le problème, il est en deux volets. Et je voudrais profiter de 5 minutes pour parler de ce problème qui n'est pas seulement un problème dans le fait d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. On a l'habitude de prendre toutes les assurances possibles. Si vous avez déjà eu la visite d'un agent d'assurance, vous êtes certain que le bon Dieu ne vous veut que du mal et que grâce aux assurances, vous allez pouvoir vous en sortir. Si vous envoie un incendie, c'est pas grave, c'est l'assurance qui paye. Si ce sont les voleurs, c'est l'assurance qui payera. Si c'est la maladie, c'est de nouveau l'assurance qui payera. On a l'habitude de croire que contre les vicissitudes de la vie, ce que nous appelons en hébreu les yissourim, ce que HaKadosh Baruch Hu nous envoie, on peut prendre des assurances. Il n'est pas évident que ce procédé soit le bon. Et ceci pour deux raisons. Première raison, personne ne sait la raison pour laquelle il est au monde. La raison pour laquelle il a été mis au monde, ça tout le monde sait. La raison pour laquelle, après beaucoup de difficultés, beaucoup de bêtises, beaucoup d'années passées, il reste au monde, il n'en sait rien. Il est à remarquer qu'un jour, un homme est allé chez le Chazon Ish et lui a demandé est-ce qu'il est bien de contracter une assurance vie. Le Chazon Ish lui a répondu ceci. Il dit d'après l'Halakha, c'est permis. Il y a un autre problème. C'est que peut-être en vérité, tu as déjà fait assez de bêtises pour que toi personnellement on te retire la vie. Imtoma, pourquoi est-ce que tu vis? Il est possible que HaKadosh Baruch Hu, du fait que tu nourrisses ta femme et tes enfants, du fait que tu leur apportes le soutien auquel ils ont droit, préfère t'utiliser toi qu'un autre, et par cela tu as l'occasion de faire tchouva. Si tu veux te faire remplacer par ton assureur, à ce moment-là, tu n'as plus de garantie sur la raison d'être pour toi ici-bas. C'est ce que le Chazon Ish lui a répondu. Donc ça, c'est la première chose. On ne peut pas s'assurer contre le bon Dieu. La deuxième chose, c'est que on ne sait pas pourquoi ces neshamot, donner ici l'exemple, mongol ou autre, on ne sait pas pourquoi ces neshamot sont là. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une raison, et il y a aussi une raison de s'en occuper. Et là, je voudrais aborder le deuxième problème. Il y a aujourd'hui, du fait de la société de consommation en refus, de tout ce qui n'est pas le standard qu'on appellerait celui des médias. L'exemple est très simple. J'ai eu malheureusement, personnellement, le besoin de me trouver dans les hôpitaux cette année, et au service de réanimation dans une maternité de l'assistance publique, les médecins m'ont posé le problème suivant. La majorité des enfants qui naissent avec des problèmes et que la médecine pourrait espérer sauver au prix de grands risques, les parents les refusent. C'est-à-dire que c'est les parents qui demandent aux médecins de ne pas traiter les enfants et plutôt de les laisser mourir que de risquer même une chance sur 100 qu'il sorte avec un défaut physique quelconque. Quelle est la position du judaïsme?
J'étais obligé de répondre que la position du judaïsme est celle-ci. Un enfant, il ne vous appartient pas. Un enfant, ça n'est pas un objet de consommation. Un enfant, il n'est pas obligé d'avoir la même tête que celui qu'on vous montre à la télé. Celui qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie, c'est le vôtre. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé celui-ci? Comment est-ce qu'il a envoyé celui-ci? À cause de quoi a-t-il envoyé celui-ci? C'est un problème qui n'a aucun rapport avec ça. Mais il n'est pas, ni à la société, ni aux parents, de disposer de la vie d'un enfant. Le problème, c'est qu'à partir du moment où justement on rentre dans ce qu'on a appelé Kav Shel Rachmana, c'est-à-dire que l'on veut une vie qui soit tracée non pas parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a tracé, mais parce que nous-mêmes on se trace en prenant des assurances, on en arrive à ce que le français moyen, le Havdil avec le juif qui, Baruch Hashem, n'en est pas encore là, mais que le français moyen soit d'accord pour une politique d'euthanasie infantile que l'on reprochait justement aux nazis. Et tout ça en toute tranquillité, sous le seul prétexte que cela dérange le bonheur, cela dérange l'équilibre de la famille, que cela dérange la vie. Dans le fait de ne pas vouloir avoir d'enfants, lorsqu'on est âgé parce qu'il y a des risques, il y a un petit peu la même attitude. Donc il est possible que selon la halakha, une femme qui demande et qui dise que voilà, mon mari a déjà fait la mitzvah de prière au revia, et que j'ai peur. Cette peur, ça n'est pas une assurance que quelque chose d'autre ne lui arrivera pas. Ça n'est pas une assurance pour les autres enfants. Ça n'est pas une assurance pour elle-même. Et d'un autre côté, le fait même d'avoir peur de ceci, cela montre que l'on n'est pas d'accord de se mesurer avec ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, mais que soi-même on prend des assurances et qu'on essaye de manipuler sa vie personnellement. Ça, c'est une chose qui est vouée à l'échec. C'est une attitude qui est vouée à l'échec. Donc même si la halakha, on ne peut pas dire qu'il est interdit de le faire, mais il est à réfléchir pour savoir en quoi cette attitude révèle de la façon de vivre, de la façon de penser qui a été prescrite selon la Torah. Un garçon et une fille qui soient encore vivants au moment où l'on quitte ce monde. La halakha est que quelqu'un, lorsqu'il quitte ce monde, il doit avoir laissé et un garçon et une fille. C'est pour ça que les chachamim appliquent le verset Baboker zra et zaracha ou ba'erev al tanach yadcha, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir plus d'enfants parce qu'on ne sait pas ce qui restera et on ne sait pas au moment où on quitte ce monde la façon dont on laissera les choses, ou l'état dans lequel on laissera les choses. Si on en arrive dans le cas des fortes chances, ce qu'on appelle Bari et Zeka, alors c'est vrai que quelqu'un ne peut pas sauter d'un précipice et puis dire qu'Akadosh Baruch Hu l'aide parce qu'il n'arrivera rien. Ça, c'est vrai. Le problème est, c'est que les fortes chances, elles sont à situer. C'est-à-dire, si quelqu'un, il arrivait qu'il soit dans une situation où plus de 50% des chances ou plus de 50% des cas étaient ce genre de cas-là, je ne voudrais pas traiter exactement le problème de l'enfant anormal, parce que il n'est pas évident que ce soit un cas ni de danger, ni qu'on ne soit pas moqué un peu au via, qui c'est qui dit. Mais même si on parle d'enfants qui ne sont pas viables, on n'a pas parlé pour l'instant des cas où la majorité des cas seraient comme ça. Et ça, je ne crois pas qu'il existe un genre de maladie où on est sûr qu'à partir d'un certain âge, il y ait la plus forte probabilité pour que, justement, on ne soit pas mekayem hamitzvah pour revivre. Sous réserve de décider encore, ce qui est probablement le contraire, qu'avec un enfant anormal, on ne soit pas mekayem hamitzvah pour revivre. Ce n'est pas évident non plus.
Les médecins à l'hôpital vous ont dit que les parents ne voulaient pas, mais la société, c'est les médecins eux-mêmes qui voulaient décider, eux, justement, de garder l'enfant en vie.
Eux, ils veulent garder l'enfant en vie parce que c'est leur métier de le garder. Mais ils ne veulent pas le garder contre la société. La société lutte contre eux. Parce que justement, la société aujourd'hui n'est plus d'accord de faire grandir en son sein des enfants hors de la norme. C'est-à-dire qu'on n'est plus d'accord du fait de la communication, du fait des médias, du fait de la publicité, on pourrait dire,
d'avoir à s'occuper de problèmes qui ne sont pas générateurs de bonheur. Maintenant que le médecin lui-même veuille faire son travail et qu'il est payé pour le faire, et que lui n'est pas à regarder à longue échéance ni les besoins, les envies des parents, ni ceux de la société, ça c'est un autre problème. Mais tout doucement, on s'achemine vers une société qui pratiquerait l'euthanasie infantile. Ça, il faut le savoir, tout doucement, on s'achemine. Mais quelqu'un qui est anormal, il est possible qu'il n'ait pas la mitzvah de pauvre vivre. C'est-à-dire que d'avoir des enfants, de ne pas pouvoir s'en occuper, ça n'est pas tout. Il ne suffit pas d'avoir des enfants, il faut pouvoir avoir la possibilité de les éduquer et de leur donner à manger. À partir du moment où on les confie dans les bras de gens qui n'ont pas cette responsabilité-là ou qui ne peuvent pas l'assumer, je mets en danger l'enfant. Alors que lorsque un enfant anormal est né, il n'est pas évident, ou en tout cas il est même sûr que ce soit le contraire, qu'on soit mekayem la mitzvah de pauvre vivre. C'est là la différence. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des troubles mentaux, il ne serait pas tour de la mitzvah, exactement comme d'une autre mitzvah. Alors que lorsque la mitzvah, elle est faite d'une façon qui ne peut pas être à la satisfaction de la famille, ça ne peut en aucun cas être un tour de la mitzvah. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire que quelqu'un qui a un enfant, même qu'il soit anormal, il a tout à fait être mekayem mitzvah pour Rovia, au contraire. Le problème de l'enfant non désiré, c'est vrai que c'est un problème grave. Seulement, il faudrait le garder à sa juste proportion, c'est-à-dire. Il ne faudrait pas confondre entre des parents anormaux et des parents qui n'aiment pas leurs enfants. Le fait d'avoir un enfant et d'être sûr qu'on ne va pas l'aimer, c'est-à-dire de ne pas être disponible pour l'éduquer et pour l'aimer, ça ne veut pas dire que l'on est dans une situation anormale. Je m'explique. Je n'étais pas compris grand-chose, mais je pense que de confondre entre le fait d'être anormal, c'est-à-dire d'avoir une mère ou un père anormaux, qui occasionnerait justement un ptour, qui occasionnerait une dispense de la mitzvah, n'a aucun rapport avec l'enfant non désiré. Maintenant, pour répondre tout de suite à une des questions, il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des parents qui sont anormaux, mais qui ont des chances d'avoir des enfants normaux, on les laisse se marier et on leur prend les enfants qui sont éduqués par d'autres. Voilà le choix qui est fait actuellement. C'est de cette façon-là que l'on procède. Le fait de ne pas avoir désiré des enfants, il faut savoir que lorsque l'enfant paraît, on a souvent une autre attitude. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « je ne suis pas disponible » et à partir du moment où cet enfant viendra « je ne l'aimerai pas » alors il vaut mieux ne pas en avoir. Parce que dans la majorité des cas, la théorie n'a rien à voir avec la pratique. À partir du moment où l'enfant naît, il se trouve très peu de parents qui le font souffrir et que justement parce qu'il n'a pas été désiré, ne l'aime pas. Mais imaginons qu'il existe un cas pareil. La halakha ne serait pas que la personne n'est pas tour de la mitzvah pour Rovia, mais qu'au contraire, elle serait obligé d'accomplir la mitzvah, et au cas où il se révélerait qu'elle serait dans l'impossibilité de l'éduquer, elle aurait l'obligation de céder l'enfant à quelqu'un d'autre. Maintenant, je ne veux pas intervenir dans le débat de savoir est-ce que le fait de céder l'enfant à quelqu'un d'autre, ça n'est que la décision des parents, ou c'est la société qui a le droit de décider. Ça, ce sont des modalités pratiques. Mais le fait de ne pas vouloir l'éduquer, ou enfin de ne pas être disponible pour l'éduquer, n'enlève pas matériellement la mitzvah de pauvre vous. Il est difficile d'imaginer que dans notre société on arrive, mais c'était le cas il y a quelques siècles, il y a encore pas tellement longtemps, que lorsque les parents avaient trop d'enfants et voyaient qu'ils n'arrivaient pas à les éduquer, ils les donnaient à de la famille ou à des amis pour pouvoir être éduqués. C'est-à-dire que les deux choses n'ont pas de relation. Maintenant, l'indisponibilité, là aussi, il faut savoir que tout est relatif. Quelqu'un qui entreprend un travail parce qu'il a besoin d'argent, il faut savoir, est-ce que cet argent-là, c'est pour nourrir l'enfant, ou au contraire, c'est comme on l'a dit pour la résidence secondaire. Le fait que moi, je m'affirme étant indisponible, est-ce que ça veut vraiment dire qu'au regard de l'Allah, je suis indisponible? Ou alors que le minimum de la disponibilité, il est acquis depuis longtemps? mais que la personne a des désirs de disponibilité qui sont tout à fait autres. Par exemple, le fait de pouvoir faire une carrière, de ne pas être entravé par les enfants dans sa carrière. C'est ce qui arrive le plus fréquemment. C'est-à-dire qu'on décide qu'à partir du moment où on ne peut pas arriver dans un tel grade dans l'entreprise, ça ne vaut pas la peine d'entreprendre, et puisqu'on entreprend, il faut qu'on arrive à telle et telle situation, et que les enfants gêneraient, donc on se pense indisponible. Il n'est pas sûr que l'on regarde d'abord sa propre vie, c'est-à-dire ce que l'on a conçu tout seul, en regardant les enfants comme une gêne. Peut-être qu'on est obligé de regarder de l'autre côté, et en se disant, ayant des enfants, quelle est ma disponibilité? Alors là, peut-être qu'on va condamner la majorité des femmes à ne pas pouvoir poursuivre de carrière comme les hommes. Mais il n'est pas sûr, parce qu'en vérité, la question est là. Je suis indisponible. Pourquoi je suis indisponible? Parce que je suis seul pour l'instant. Donc, j'ai le droit de projeter ma vie seul, et selon l'idée que j'ai de cette vie, je deviens indisponible par les autres. Il n'est pas sûr que ce soit cette façon-là qui soit celle de regarder la mitzvah pour vous. Peut-être c'est le contraire. Il est normal que quelqu'un à 20 ans se marie, qu'à 30 ans il ait 4 ou 5 enfants, à 40 ans il en ait une dizaine. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce cadre-là? Alors on ne peut pas demander non plus, puisque ma façon de voir est opposée à celle de l'Halakha, mais qu'est-ce que l'Halakha va résoudre dans mon cas? Peut-être justement qu'il va me demander de me mettre en cause. Le problème du couple qui avait été abordé au début, le problème des enfants, il est certain qu'il existe une mitzvah et une relation entre le couple qui n'a rien à voir avec les enfants. C'est la raison pour laquelle au commencement on a séparé les deux volets de ce qu'on a appelé Ezer que Negdo. C'est la possibilité de supporter le conjoint et pour Ourevou, la possibilité de supporter les enfants, qui sont deux choses tout à fait différentes. Et il est évident que la mitzvah de Ourevou, bien qu'elle soit faite par le couple, elle n'a rien à voir avec les mitzvot qu'ont l'un des deux conjoints l'un vis-à-vis de l'autre. Ce sont deux choses qui sont totalement opposées. Le vrai problème, parce que c'est vrai que, particulièrement dans les enfants anormaux, on trouve des goïms qui sont capables d'éduquer, d'aimer des enfants qui ne sont pas ceux qu'ils auraient voulu. Et quelquefois, on trouve des juifs qui ne sont pas capables de le faire. Mais le problème, il est toujours le même. Lorsque je n'ai pas envie de faire une mitzvah, et du fait que je n'en ai pas envie, je n'en suis pas capable non plus. Lorsque j'estime que je ne suis pas capable de construire une soukha, je ne suis pas capable de ne pas travailler le Shabbat. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on doit prendre l'incapacité en compte et regarder les problèmes halakhiques, ou peut-être on devrait regarder cette incapacité-là? Je vais vous donner un exemple de la différence d'attitude entre aujourd'hui et avant. Il est arrivé, malheureusement, en France, plusieurs cas, ces dernières années, de jeunes filles qui ont été violées par des goyim. L'attitude normale de la société, c'est de faire le tour des rabbanim pour demander l'avortement. C'est-à-dire que les organismes communautaires sont allés chez tous les rabbanim pour essayer d'obtenir l'autorisation de l'avortement. C'est tout à fait concevable. Pourquoi? Nous, malheureusement, nous avons eu chez nous un cas pareil. L'assistante sociale pouvait très bien expliquer qu'un enfant qui est né d'une façon on ne peut plus négative, ne peut pas être aimé, il ne fait que rappeler le viol, c'est quelqu'un qui est indésirable, et pourquoi est-ce que la Torah n'autorise pas l'avortement? Il y avait une centaine d'années, à Jérusalem, une institution qui était réservée aux filles mères de toute la galoute, qui était rejetée par les communautés, et que l'on envoyait dans une institution spéciale à Yerushalayim, et dont les enfants étaient pris en charge par la communauté, et dont les mères trouvaient du travail qui était fourni par la communauté, et qui non seulement étaient acceptés par la communauté, mais la communauté trouvait qu'il était de son devoir de répondre à ces situations. Alors voilà comment, il y a 100 ou 150 ans, la communauté juive était capable de réagir, et voilà comment maintenant elle réagit. La différence, elle est très simple. C'est qu'avant, on ne se jugeait pas incapable de faire face au problème. On essayait de trouver une solution selon ce que la halakha demande. Alors qu'aujourd'hui, on se juge indisponible et on essaye de trouver que la halakha puisse justifier cette indisponibilité-là. Donc, tout ce que j'ai retenu de la question, c'est ceci. C'est que le fait d'avoir des enfants, d'être obligé par la mitzvah de Pourovia, ça doit donner l'occasion pour la personne de se remettre en cause, non seulement dans ses facultés, peut-être d'aimer un enfant qui n'est pas désiré, peut-être même d'aimer un enfant qui est, selon les critères de la société, anormal. Et ce serait ça l'obligation de la mitzvah, justement, de Pourovia. Et ça n'est pas de demander, est-ce que dans un cas pareil, j'ai une obligation? C'est d'essayer de savoir comment est-ce que, par rapport à cette obligation, on peut arriver à se créer ou à se recréer une attitude qui soit justement l'attitude positive. Maintenant, s'il arrivait des cas que l'on appellerait des cas de force majeure, c'est-à-dire qu'il soit impossible pour la personne de pouvoir le faire, à ce moment-là, on est réduit au cas limite ou la contraception, ou alors ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de ceux qui ont des problèmes de santé mentale, de leur retirer les enfants à la naissance et de les confier à d'autres. Mais il peut y arriver des cas où on soit obligé de statuer que la personne n'est pas dans une santé ni morale ni physique qui puisse lui permettre d'affronter un enfant anormal. Donc, elle n'aurait pas le droit d'avoir d'enfants.
A priori, un couple religieux, une femme jusqu'à la ménopause, elle devra avoir des enfants.
Si elle peut en avoir, elle devra en avoir, oui. Maintenant, chacun est à examiner de savoir si vraiment elle est en cas de force majeure. Ça devient aussi précis. Justement, c'est ce qu'on appelle Kavshed Rachmana. Ça veut dire que lorsqu'on planifie les choses d'une façon tellement précise, on n'arrive à rien du tout parce qu'on trouvera toujours qu'on a l'impossibilité. Maintenant, ce qu'il y a, je vais vous répondre de deux façons. D'abord, nous avons une école à Sarcelles. Il y a très peu de gens qui payent le prix. Et tout le monde a des bonnes raisons de demander des bourses. Donc, le fait de dépenser de l'argent pour les enfants, pour leur donner une éducation juive, aujourd'hui, pratiquement, même celui qui n'a pas les moyens, son enfant est accepté dans une école juive, il n'a pas besoin de planifier la famille pour savoir est-ce qu'il aura assez d'argent ou non. Deuxièmement, il faut savoir que à partir du moment où on est mekayem une mitzvah, on fait une mitzvah, il est possible que le fait de faire cette mitzvah-là change le cadre des possibilités tel qu'on les conçoit. C'est-à-dire, je gagne 5000 francs, et je suis sûr que si je fais encore une mitzvah en plus, je n'aurai que 5000 francs. Peut-être justement, ça c'est la bracha qui est marquée dans la Torah, qu'à partir du moment où on fait les mitzvot, peut-être qu'on aura plus d'argent, ou peut-être qu'on trouvera une solution, et on ne peut pas toujours juger à posteriori de l'avenir. C'est-à-dire, selon la situation dans laquelle on est, l'avenir, il est absolument certain que le bon Dieu ne nous aidera pas, que on n'arrivera pas à s'en sortir. Donc à partir du moment où on rentre dans le cadre de la mitzvah, on est obligé d'adopter une certaine inconscience, qui était celle d'Avraham Avinu, justement lorsqu'on l'a dit, l'Ech Lecha, tu t'en vas où tu vas, tu n'en sais trop rien, et d'essayer de trouver en chemin les moyens, et pas de faire la mitzvah à partir du moment où on est sûr d'avoir tous les moyens de la faire. Les Ashkenazim, il existe ce qu'on appelle le Heter Me'ar Rabbanim. Mais enfin, c'est pas tellement pas chaud cette histoire-là. D'abord, c'est très rare que les femmes acceptent. C'est-à-dire que la plupart des femmes, si une femme n'a pas eu d'enfant, parce qu'Allah a dit qu'après 10 ans, si une femme n'a pas eu d'enfant, on a le droit de lui donner un guet, la plupart des femmes préfèrent un guet plutôt que de voir le mari se marier avec une deuxième femme. Donc déjà, ces cas-là sont très rares. C'est pas tellement un mal, parce que pour avoir deux femmes, il faut avoir des midot qu'aujourd'hui on n'a plus. C'est-à-dire que pour conduire des choses, déjà avec une, ça marche pas tellement facilement. C'est-à-dire que la société qui nous entoure, elle nous empêche d'avoir le schéma qui est possible pour conduire ce genre de mariage-là. Mais en France, ce qui arrive, c'est ce qu'on donne, ce qu'on appelle un Heter Me'ar Rabbanim, c'est-à-dire qu'on enlève le Cherem de Rabbeinu Gershom par 100 Rabbanim et qu'on prend une deuxième femme, ce qui équivaut exactement à la même chose. Et la femme ne peut pas se marier avec un autre. C'est-à-dire Heter Me'ar Rabbanim, c'est qu'on permet la polygamie, c'est un homme avec plusieurs femmes et une femme avec plusieurs hommes, non. Mais je vous dis, le problème, il est ceci. Il faut comprendre pourquoi, dans tous les actes de mariage et de divorce qu'on appelle la vie civile, pourquoi est-ce que c'est toujours le mari qui a les devoirs et les obligations et c'est lui qui règle la procédure? Par exemple, une femme ne peut pas donner un guet à son mari, c'est le mari qui donne le guet à la femme. Une femme ne peut pas donner des kiddushin à son mari, c'est le mari qui donne les kiddushin à la femme. Une femme ne peut pas avoir deux maris, un mari peut avoir deux femmes. Le problème vient du fait que la mitzvah de Pirorevia a été donnée à l'homme et pas à la femme. Maintenant, je pense que ça mettra trop de temps de traiter ce sujet-là. Ça peut faire l'objet d'un autre débat. Le problème de savoir pourquoi. Un deuxième problème, qui est exactement le même, c'est un problème qu'on pourrait dire naturel. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que la nature a prévu qu'une femme puisse avoir des enfants malgré sa volonté, et pourquoi un homme ne peut pas en avoir malgré sa volonté? Parce qu'en vérité, les deux problèmes sont à situer sur le même rapport. C'est que la mitzvah n'est donnée qu'à quelqu'un qui est maître de sa fonction. Quelqu'un qui n'est pas maître de sa fonction, il n'a pas la mitzvah. Une femme, du fait qu'elle puisse avoir un enfant contre sa volonté, elle n'a pas de mitzvah de pour vous. Alors qu'un homme, de la volonté duquel la mitzvah dépend, a justement la mitzvah de pour vous. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que l'homme a été créé mâle et femelle? Pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Ça, on peut étudier le problème, mais le centre du problème est celui-ci. C'est qu'une femme, dans la Torah, elle s'appelle Bayit, c'est-à-dire quelque chose qui est construit. Et l'homme, c'est celui qui construit. Maintenant, pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça et pas? Ça, on peut discuter de ça, mais ça, c'est déjà tout à fait un autre débat. Mitzvah de pour vous a été donnée à l'homme. Non seulement elle a été donnée à l'homme, mais la Torah, elle est très claire. Le fait du mariage, ça s'appelle qui Yikar Ish Isha. Lorsqu'un homme prendra femme.